en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, merci d'avoir choisi Canal Académie. C'est à un académicien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1843 et membre de l'Académie française en 1844 que nous allons consacrer cette émission Prosper Mérimée, 1803-1870. Je vous donne ces dates. Cependant, réduire Prosper Mérimée à sa vie académique serait bien restrictif et vous allez découvrir avec mon invité que cet académicien a mené plusieurs vies en même temps. Mon invité, c'est Pierre Pélissier, auteur d'une imposante biographie de Prosper Mérimée, parue aux éditions Talendier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu rejoindre le studio de Canal Académie.
Et merci de m'avoir invité.
Je crois que parallèlement à votre carrière de journaliste politique au journal Le Figaro, vous avez écrit plusieurs livres d'histoire, essentiellement consacré à la dernière guerre, à Dien Bien Phu, à la guerre d'Algérie, mais aussi à Raymond Barre. J'ai trouvé un livre sur Raymond Barre, sur Jacques Faisan, le dessinateur, sur Jacques Anquetil.
Ce qui est plus surprenant, effectivement.
Je vois que vos centres d'intérêt sont très variés. Pour le 19e siècle, vous vous étiez penché sur la vie d'Émile de Girardin. Et vous revenez maintenant avec une autre grande figure du 19e siècle, Prosper Mérimée. Vous aimez ce siècle ?
J'aime à la fois ce siècle et après avoir fréquenté Émile de Girardin, j'ai eu envie de faire ce Mérimée. Donc c'était une envie qui me tenait depuis presque 20 ans. Et finalement, j'ai pu faire mon Mérimée et échapper en même temps au XXe siècle, un peu trop guerrier, un peu trop militaire à mon goût, pour revenir à des personnages peut-être plus attachants et plus humains.
Quelles ont été les sources documentaires à votre disposition ? Existe-t-il une abondante correspondance, un journal intime, des articles de journaux, des revues ?
Il existe beaucoup de choses. Il existe une base qui représente 17 volumes qui ont été préparés par le docteur Parturier qui a recherché toutes les lettres disponibles. Il a retrouvé plus de 5000 lettres. Les 5000 lettres, je les ai lues, je vous l'avoue, toutes les 5000. À peu près 150 ou 160 sont inutilisables parce qu'on ne sait pas à qui ils s'adressaient ou parce qu'il n'y a pas de date. Donc, une base de départ énorme avec cette correspondance. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Il a écrit sur les monuments historiques. Il est quand même le deuxième inspecteur général des monuments historiques. Il a écrit les récits de ses 4 premières grandes tournées. Et puis, il y a beaucoup de choses autour de lui. Ses amis en ont beaucoup parlé. Ses contemporains, qu'il l'aimait ou qu'il ne l'aimait pas, ont beaucoup écrit sur lui. Donc, on retrouve énormément de choses
et
sur Mérimée.
Et il publiait lui-même beaucoup dans la Revue des Deux Mondes, je crois.
Il publiait en général. Ses livres n'étaient pas publiés en librairie pour commencer, mais passaient dans la Revue des Deux Mondes ou d'autres revues. Alors, il y a eu ses nouvelles qui sont passées dans les revues pour commencer. Puis, son œuvre historique est également passée dans des revues mensuelles ou autres.
Alors revenons aux vies de Prosper Mérimée, aux vies au pluriel, parce qu'au fond, on peut dire qu'il a eu 7 vies. C'était d'ailleurs le titre que vous souhaitiez donner à ce livre.
Oui, le livre est dans une collection, le sous-titre n'était pas utile. J'avais choisi les 7 vies parce que c'était une allusion. Il a effectivement mené à peu près 7 vies. C'est une allusion au chat. On dit toujours qu'un chat a 7 vies et il était passionné par les chats. Il a toujours eu des chats, donc j'avais fait cette plaisanterie un peu légère. Mais en cherchant bien, on trouve 7 vies pour Mérimée.
Alors on va commencer par la première. Avant l'âge de 30 ans, si je vous ai bien lu, il mène une vie de vaurien. C'est votre expression. Alors, qu'est-ce qu'un vaurien ?
C'est une expression que je lui ai empruntée. Mérimée se décrivait lui-même comme un vaurien. C'est la période où il est fonctionnaire, il occupe des postes importants dans les ministères. Il est directeur de cabinet, chef de cabinet. Mais en même temps, il se dévergonde dès que la nuit tombe. Il fréquente tous les mauvais lieux de Paris et les plus mauvais d'entre eux, en compagnie par exemple de Musset, de Lacroix et de quelques-uns de ses amis. Et c'est une vie à la limite de débauche. Alors est-ce la vie qui lui plaît ? Il dira plus tard « j'ai voulu connaître ». En se détachant un peu de cette vie de vaurien, en prenant sa distance et en ayant des relations féminines plus suivies. Il a effectivement mené ce qu'on mettrait aujourd'hui, on appellerait une vie de bambochard. C'était un noceur, mais ça s'est terminé assez vite, aux environs de la trentaine.
Il s'est assagi. Alors, il a mené aussi une vie littéraire. Il était écrivain, bien sûr, et grand épistolier, vous l'avez dit. Alors, de quand datent ses premières œuvres? Quelle est l'œuvre qui le lance, qui lui donne une certaine notoriété? Et quelles sont ses grandes œuvres qui
lui
restent?
Il commence sa carrière littéraire en 1827 avec le théâtre de Clara Gazul, qui est sans doute un de ses premiers canulars. Parce que Clara Gazul n'a jamais existé. Elle est supposée avoir écrit un théâtre qu'il est entièrement de la main de Mérimée, et il fait une préface à ses œuvres qu'il signe Joseph l'Étrange, dont double canular. Et il y aura dans la première édition publiée quelque chose de très amusant, c'est un double portrait. Il y a Clara Gazul avec un cache. Quand on déplace le cache, on trouve le portrait de Mérimée.
Ah oui ?
Et oui, c'était une plaisanterie avec ses amis. Et ce théâtre a une chose très particulière, ce théâtre massacre littéralement le théâtre classique, celui des Trois Unités. Le théâtre de Clara Gazul est une sorte de révolution, puisque Mérimée détruit littéralement le théâtre classique en bafouant les règles de base, unité de lieu, unité d'action, unité de temps. Il fait un théâtre qui d'ailleurs est pratiquement injouable au départ, pour s'orienter vers quelque chose qui sera plus tard le théâtre romantique. Ne croyez pas que Mérimée soit un romantique, il se détachera très très vite du romantisme et surtout du théâtre romantique. C'est un homme qui, au fond de lui-même, est très individuel, très personnel, il a son style à lui, il ne veut pas en faire une école. Le théâtre de Clara Gazul sera joué peu, sera parfois adapté. Il y aura en fin de parcours un film de Jean Renoir qui s'appelle Le Carrosse d'or, qui est un extrait du théâtre de Mérimée. Et à partir de ça, cet homme est connu dans le monde littéraire. On sent que c'est un personnage qui a des idées, qui peut inventer quelque chose. Et puis, il va rentrer dans un système, celui des nouvelles. Il adore les nouvelles. C'est pas facile.
C'est là que son talent s'épanouit.
C'est là que son... Alors, est-ce qu'il y a des gènes pour les écrivains et des gènes qui les poussent à écrire des nouvelles? Je vous signale que son arrière-grand-mère a écrit beaucoup de nouvelles, Madame de Beaumont, et que la nouvelle la plus connue s'appelle « La Belle et la Bête ».
Ah, en effet, voilà. C'était son arrière-grand-mère.
C'était son arrière-grand-mère.
Vous apprenez quelque chose
d'intéressant. Je pose la question des gènes chez les écrivains.
Des gènes chez les écrivains de nouvelles.
De nouvelles.
Alors, donc, la vie d'écrivain de... Mais enfin, de Mérimée maintenant, qu'est-ce qu'il reste comme grande œuvre?
Il reste certaines de ses nouvelles. Il reste Colomba, qui est sans doute la plus connue. Il reste Carmen. Quand on vous dit, j'ai vu Carmen de Bizet, mais ça fait mal.
Il n'y a pas de Carmen de Bizet, sauf pour la musique.
Oui, bien sûr. Le livret qui est de Mélac et Halévy, mais on a totalement oublié le nom de Mérimée quand on parle de Carmen. Carmen est jouée au théâtre, en opéra, en ballet, en film, et jamais on ne pense à Mérimée. C'est peut-être un de ses chefs-d'œuvre.
Alors on va lui rendre hommage là alors. Vraiment, l'histoire de Carmen, c'est Mérimée qui l'a totalement inventée.
Totalement écrite, totalement inventée. Bon, il y a trois parties dans Carmen. La première partie, c'est un peu un récit de ses voyages en Espagne, dont est effectivement son œuvre. La deuxième partie, c'est l'aventure de cette jeune femme, la cigarière, qui est Carmen, et qui sans doute lui a été inspirée par une dame qui l'aimera beaucoup. C'est une dame qui a sa place dans l'histoire, c'est la mère de l'impératrice Eugénie. C'est Madame de Montiro, avec qui il est très intime, et qui lui raconte cette histoire. Et puis la troisième partie, c'est une étude sur l'Espagne qui n'a pas de place dans l'opéra et qui n'est pas la partie la plus intéressante de Carmen, qui est quand même un chef-d'œuvre.
Troisième vie de Mérimée, c'est un très grand voyageur. Et son nom, d'ailleurs, reste évidemment attaché au monument historique, vous l'avez dit tout à l'heure, dont il est nommé inspecteur général par Thiers, je crois. C'est Thiers qui l'a nommé.
Oui, effectivement.
Et quelle est donc la mission que Thiers lui confie? Alors, les monuments historiques, est-ce que ça existait? C'était une notion existante à l'époque?
Oui, il a eu un prédécesseur qui n'a pas occupé la fonction très longtemps, qui était Vitet. Vitet a fait ses premiers pas, ses premières découvertes, et puis il a eu envie d'une carrière politique, il a donc cédé la place. Et Prosperimé, tout de suite, a compris ce qu'il fallait faire. Il fallait sauver ce qui pouvait l'être, il ne fallait surtout pas reconstruire. Il fallait parfois laisser les monuments en état de ruine, mais les rendre à la fois sécurisés et conservables. Et il est parti dans une guerre insensée. Il est parti en guerre censée contre ceux qui massacraient le plus les monuments. C'était à l'époque les militaires. transformé les établissements
en casernes. Les chapelles en écurie, voilà.
Les chapelles en écurie. Les curés avaient une tendance à badigeonner systématiquement tous les ans l'intérieur de leurs églises, en oubliant les fresques, en oubliant des tas de choses importantes. Et puis, il y avait les vandales, pur et simple, les gosses qui cassaient les sculptures sur les façades des églises. Il fallait lutter contre tout ça.
Et les architectes nuls aussi, il y en avait quelques-uns. Vous avez dit, je l'ai vu dans votre livre.
Oui, il y avait des architectes nuls, on essaie de se séparer le plus vite possible. Puis, cette aventure le conduit très loin, parce qu'il va parcourir toute la France. Il va la parcourir en voiture, à dos de cheval, plus tard, quand le train le permettra, en train, en bateau. Et il va sauver des monuments. Alors, parmi les monuments le plus connu, c'est Vézelay. Vézelay était pratiquement en ruine. Des arbres poussaient dans la basilique quand il l'a pris en charge. Il l'a confié à un de ses disciples, qui est Viollet-le-Duc. Il a sauvé les théâtres antiques, notamment celui d'Orange. Quand vous pensez qu'il arrive à Orange et que des gens habitent à l'intérieur du théâtre, sur les gradins, on a construit des maisons, on a apporté de la terre pour faire des jardins. Voilà l'état de théâtre d'Orange quand il le trouve. Arles, c'était pareil. Donc il entreprend de sauver tout ça. Sainte, il a des batailles homériques. Et il y a un côté étrange qui apparaît. Prosper Aimé est aussi un anticlérical affirmé. Avec des nuances, ses amis disaient « il mange, il déguste de l'évêque ». Et il laisse tranquille les curés. Mais les curés, de temps en temps, fallait se battre avec eux pour sauver une église. Et cet anticlérical se battait pour rendre des églises au culte. C'est une des choses les plus extravagantes. L'église de Cunot, sur les bords de la Loire, il l'a sauvée uniquement pour la rendre au culte, avec des tours de passe-passe insensés, puisque les gens du village ont fait une pétition pour que l'église soit rendue au culte. Et ces gens ne savaient ni dire ni écrire. Il signait avec des croix et Mérimée a sans doute rédigé la pétition tout seul.
Justement, comment faisait-il pour sauver ces lieux? Il s'adressait aux ministres, il avait des subventions. Quels étaient ses moyens?
Il dépendait de trois ministères. Il dépendait du ministère de l'Intérieur pour certains monuments, il dépendait de l'éducation pour d'autres monuments et il dépendait du ministère des cultes. Alors les cultes, vous savez, c'est un ministère qui change d'attribution. Un jour, il est au ministère de l'Intérieur, à un autre moment, il est de l'Éducation nationale. Actuellement, le ministère des cultes est une annexe du ministère de l'Intérieur. Donc ces ministères-là lui apportaient les crédits qu'il demandait. On essayait de faire payer les communes et les départements, ça marchait très très mal. Et un de ses problèmes, c'est qu'il était payé sur les crédits qu'il devait dépenser. C'est-à-dire que son salaire mensuel amputait en quelque sorte la restauration des monuments. Et lorsqu'il s'est retrouvé par la suite dans une autre vie sénateur, il a tout de suite dit « je ne veux qu'un seul salaire, celui de sénateur, je ne veux plus être payé comme inspecteur général des monuments historiques ». Et certaines personnes ont cru qu'il avait quitté à cette date-là. En fait, il continue beaucoup plus longtemps.
Pierre Pélissier, dans votre livre, justement, c'est un des passages que j'ai trouvé les plus passionnant, c'est que vous détaillez ces quatre grandes tournées, c'est-à-dire vous avez au fond identifié quatre grands secteurs, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord, on voit aussi que Mérimée, dans sa vie, ne s'est jamais désintéressé de ses chères ruines.
Alors, la répartition de la France en quatre zones, c'est lui-même qui l'a décidé, ce sont ses quatre premiers grands voyages. J'ai donc repris un livre qui existe, qui a été réédité récemment. On suit à la trace Mérimée et on s'aperçoit que Vézelay, par exemple, qu'il trouve dans son premier voyage, il va s'en occuper pendant toute sa carrière. Jamais il n'abandonne quelque chose, il revient à ce qu'il a vu, il revient pour être sûr que les travaux sont faits, bien faits. Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand est une très belle histoire. Il s'est battu pendant toute sa carrière pour Notre-Dame-du-Port, qui, en 2009, est enfin terminée et enfin rénovée, retapée et sauvée.
Et sauvée. Au fond, on pourrait dire qu'on ne peut pas se promener en France sans, quelque part, toujours remercier Prosper Mérimée.
Oui, partout. Partout où il y a un monument historique, il y a quelque part ou Mérimée, ou ses disciples, ou son école, mais il y a toujours Mérimée derrière un monument. Alors, on lui a reproché de ne pas avoir sauvé, de ne pas avoir protégé les monuments du 19e ou de la fin du 18e. C'est vrai, mais ce n'était pas encore des monuments historiques. C'était des monuments presque neufs.
Et puis, quelquefois, il faut faire un choix.
Il n'était pas tout à fait concerné par les monuments du début du 19e. Mais c'est vrai, ce n'était pas encore des monuments historiques. Alors aujourd'hui, on classe des œuvres contemporaines. On a classé du Le Corbusier, des choses comme ça. Lui n'était pas encore arrivé à ce stade de son évolution. Ses successeurs l'ont fait.
Il n'empêche qu'on lui doit beaucoup, beaucoup de chefs-d'œuvre sauvés. Mérimée voyage aussi à l'étranger. Il voyage, vous l'avez dit, en Espagne plusieurs fois, mais il voyage aussi en Grèce, en Turquie, en Italie, bien sûr, en Angleterre, en Allemagne, dans toutes les grandes capitales européennes. C'est un grand voyageur.
Pour l'époque, c'est un voyageur assez extravagant, parce que je pense que les conditions de voyage étaient épuisantes. Il va en Turquie, mais en Turquie, il ne se contente pas de se promener. Il observe la Turquie, il la décrit, mais il repère des monuments historiques, il repère des frontons de temples grecs, et il organise à Paris, à son retour, une expédition pour aller chercher un fronton du temple grec qui est aujourd'hui au Louvre. Donc tout ça, c'était sa passion, en fait. Quand il monte en Écosse, il va parfois à des congrès d'archéologues. Quand il va en Hongrie, il s'intéresse aux monuments. Il trouve d'ailleurs, en Allemagne, qu'on néglige beaucoup les monuments historiques et que les architectes qui s'en occupent font vraiment des vandales et que les nôtres sont des petits saints à côté.
Avec Pierre Pélissier, nous allons poursuivre cette exploration des sept vies de Prosper Mérimée. Je vous propose de marquer une courte pause et nous nous retrouvons dans un instant.
Les membres de l'Académie française et d'autres académies, des écrivains de tous horizons, des grands lecteurs venus du monde de l'édition et de la traduction, ou encore des artistes, nous parlent de leur coup de cœur littéraire dans l'émission « Au plaisir d'insolence » animée par Elisabeth Antebi. Restituer le plaisir de lire, de rêver, de laisser se déployer les mots, revivre les discussions à bâtons rompus, nourries de lectures croisées des salons d'autrefois. S'amuser, s'émouvoir, faire parler un écrivain qui marque notre mémoire, notre vie, ou parler d'une œuvre qui a trouvé en nous des échos. Tel est le projet de cette émission « Au plaisir d'insolence » à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous revenons dans notre studio en compagnie de Pierre Pélissier qui vient de publier une biographie de Prosper Mérimée qui est parue chez Talendier. Nous en étions à la cinquième vie de Prosper Mérimée après avoir examiné qu'il a été d'abord un vaurien, un grand écrivain, un grand voyageur et surtout un sauveteur des monuments historiques. Maintenant, on peut dire aussi qu'il était un grand séducteur. Alors, racontez-nous un peu ses relations féminines.
C'est le chapitre sans doute le plus compliqué, le plus ambigu, parce que après avoir été un vaurien, il a quelques passions dans sa vie. Et là, c'est un peu comme les monuments historiques. Lorsqu'il a une passion pour une dame, il est rare que la dame sorte totalement de sa vie. Il y a une petite actrice qui s'appelle Caillot.
Céline.
Céline de son prénom. Céline Caillot est très proche. C'est une aventure qui ne dure que quelques années. Mais 20 ou 30 ans plus tard, on s'apercevra que quand elle a des soucis d'argent, elle vient frapper à la porte de Mérimée. Elle est accueillie comme une vieille amie qu'il faut aider. Alors, la grande passion, ou les grandes passions, je pense qu'il y en a deux. Il y a Madame Valentine de Desserres, femme du préfet de police de Paris à l'époque. La différence d'âge entre le mari et la femme explique sans doute beaucoup de choses. C'est une grande passion partagée. Et puis un jour, sans qu'ils comprennent vraiment pourquoi, Madame de Desserres se distend leurs liens, l'oublie, l'éloigne. Il va s'apercevoir qu'il a eu un premier remplaçant, puis un deuxième, et je crois que ça le marque profondément. Il y a au fond de Mérimée une tristesse permanente qui apparaît, je pense que c'est l'affaire de Desserres qui le rend malheureux et qui le vieillit terriblement. Et puis il y a une deuxième personne, l'inconnu. L'inconnu, il la rencontre dans des conditions complètement folles. C'est une jeune femme qui écrit, qui veut avoir un échantillon de lettres, un échantillon de tissu, on ne sait pas trop bien pourquoi. On lui cache, il finit par la rencontrer et son inconnu, ils vont entretenir une correspondance très suivie, sans doute beaucoup plus qu'une correspondance, et elle sera elle aussi présente tout au long de sa vie.
Jeannie d'Aquin.
Il a donc cette liaison avec cette jeune femme, Jeannie d'Aquin, qui révélera son nom beaucoup plus tard en publiant ses mémoires. Le livre de Jeannie d'Aquin est parfaitement inutilisable pour un biographe, car pour cacher sans doute le côté charnel de leur liaison, elle a terriblement triché sur les dates, sur le choix des lettres, elle les a mélangées, elle a organisé un joyeux désordre pour cacher la vérité.
Et on peut aussi dire un mot peut-être de sa relation avec George Sand, qui, même si elle n'a pas été très brillante au fond, a tout de même existé.
Ah, non seulement elle existait, mais là aussi on retrouve cette permanence, parce que George Sand avait désiré Mérimée de manière évidente. Mérimée regardait avec beaucoup d'envie George Sand. Les approches ont duré plusieurs mois. Il y avait toujours un obstacle à leur rencontre. Et puis, le jour où ils se sont retrouvés dans l'appartement de George Sand, sur le quai Saint-Michel, cette nuit-là, c'est la nuit dite du fiasco, où rien ne s'est passé comme l'espéraient l'un et l'autre. Ils sont sortis tous les deux très mécontents de cette affaire. Mérimée s'est précipité dans un café pour écrire à son ami Stendhal et lui raconter le fiasco, un mot qu'aimait beaucoup Stendhal, qui en a connu quelques-uns. Et elle s'est précipitée chez ses amis pour raconter son aventure. Et l'aventure a fait le tour de Paris dans les 48 heures, bien évidemment, embellie, transformée. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que de temps en temps, ils s'envoient un petit mot. Ils s'écrivent, ils envoient une introduction. Si vous partez en Turquie, cher ami, allez voir un tel. Si vous allez en Grèce, allez voir un tel. Si vous passez en Italie, allez voir Stendhal. Et puis, le fin fond de l'histoire, c'est quand même une chose de plus étrange. Il y a à Cannes, sur la tombe de Mérimée, un objet en marbre qui représente un livre ouvert avec une dédicace à l'amour d'un côté, signé George Sand de l'autre côté. Et pour un homme qui a vécu dans le canular, ce qui est formidable, c'est en est indiscutablement canular, George Sand, George prend un S.
Prend un S, voilà. Il y a aussi, je crois, dans la fin de sa vie, ou tout au long de sa vie, peut-être, deux sœurs, les sœurs Lagden. Quelle était leur relation avec Mérimée?
C'est encore une chose étrange, c'est encore un mystère de plus dans la vie de Mérimée. Elles sont entrées dans sa vie lorsqu'il était jeune homme. Elles étaient élèves de Madame Mère Mérimée, qui était peintre et qui donnait des cours. Et ces deux jeunes Anglaises ont été à Paris comme élèves de Madame Mérimée. L'une des deux, Fanny, passe pour avoir été la maîtresse de Mérimée, jeune homme, et elle, jeune fille. Plus tard, beaucoup plus tard, quand la vie sera très dure pour Mérimée, elles seront là toutes les deux. L'une s'était mariée et veuve, l'autre ne s'est jamais mariée. Elles sont un peu des gouvernantes de Mérimée. Elles sont un peu ces geôlières aussi, parce qu'elles le tiennent vraiment très serré.
Mais elle l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie.
Elle l'accompagne dans les rues de Cannes. Tout le monde regardait passer ce cortège, Mérimée marchant mal, elles deux suivant, l'une portant un petit pliant pour qu'il puisse se reposer, et la boîte de peinture, la boîte d'aquarelle s'il voulait faire une toile, et la deuxième portant un arc, parce que Mérimée souffrait des poumons, et le tir à l'arc, paraît-il, travaillait des muscles du
dégageait
thorax.
Voilà. Ça c'est inouï, oui.
Et ce qui laisse supposer qu'une des deux, Fanny, a eu un rôle très, très intime dans la vie de Mérimée, c'est que les amis disaient « elle a été la première et la dernière » et elle s'est fait enterrer plus tard dans le même tombeau que Mérimée.
Alors nous allons aborder une autre vie de Mérimée. Je ne sais plus si on en est à la 6 ou à la 7, mais ce n'est pas très grave. C'est sa vie politique, car il fut aussi un homme politique, chef de cabinet de plusieurs ministres, commerce, marine, intérieur, et sénateur en 1853. Un sénateur qui n'était pas élu, puisqu'à l'époque, les sénateurs étaient nommés. Évidemment nommés par l'empereur. Quelles étaient donc ses relations avec l'empereur Napoléon III?
Je pense qu'il est nommé par l'empereur, il est nommé à la demande de l'impératrice. Il faut savoir quand même que Eugénie, qu'il a connue toute petite, elle avait 3 ou 4 ans quand il l'a fait sauter sur ses genoux, Eugénie est un peu l'enfant adoptif de Mérimée. Le père de M. de Montiro disparaît assez vite. Mme de Montiro est très très proche, mais très intimement proche de Mérimée, sans doute, il demande quelques lettres pour le prouver, sans doute sa maîtresse. Et lui s'occupe beaucoup de la petite Eugénie. C'est pratiquement lui qui lui apprend le français, avec Stendhal qui lui apprend l'histoire. Et les années passant, Eugénie est à Paris, et Eugénie, jeune femme, est courtisée par Napoléon III, qui est encore le prince Louis-Napoléon. Et lorsque apparaît la demande en mariage, il y a un échange de lettres et un jour, Napoléon III dira à Eugénie, c'est quand même curieux, vos lettres ne vous ressemblent pas. Effectivement, elle ne pouvait pas lui ressembler, c'est Mérimée qui écrivait les lettres d'Eugénie à Napoléon III. Tout de suite, elle l'introduit à la cour et Napoléon III n'aime pas Mérimée. Et Eugénie lui répond, c'est quand même mon plus proche ami, c'est mon plus vieil ami. Et Napoléon III, ce mot merveilleux, alors il va falloir que je l'aime. Et à partir de là, naît une confiance manifestement, cette confiance grandit parce que Mérimée ne cherche pas à influencer la politique de l'empereur. Jamais il ne se mêle de grandes discussions. Une fois ou deux, il intervient et il gagne la partie, notamment quand on glisse vers l'empire libéral. Il essaie de freiner les choses. Et puis, la confiance prend une dimension certaine, puisque Mérimée a écrit, il voulait faire 3 ouvrages sur César. Il a publié le premier, il a publié le deuxième, et il apprend que Napoléon III écrit un César. Il lui offre son 3e tome en chantier. Et il devient un peu le maître d'œuvre d'une équipe qui écrit un César, enfin qui prépare la matière pour un César qui sera quand même entièrement de la main de Napoléon III. Donc voilà, l'écrivain qui devient le nègre de l'empereur, c'est quand même assez intéressant. Et puis cette amitié se développe autour notamment de César. Napoléon III veut connaître le site d'Alésia. Il part avec Mérimée visiter Alésia avec en main le commentaire de la guerre des Gaules. Passage assez étonnant. Ça va plus loin parce que là, on a peut-être la 8e vie de Mérimée. On a Mérimée au service secret de Sa Majesté. Ça, c'est un côté... Quand j'ai découvert cette lettre, j'y ai pas vraiment cru. Ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit, c'est pas possible. Il travaille, c'est le service secret de l'empereur. On fait passer des messages en Angleterre. On avait une filière par les amis de Mérimée. Et puis un jour, dans un catalogue de libraires de livres anciens, j'ai trouvé quelques documents qui étaient à vendre. Et en commentaire, c'était la preuve que Mérimée était bien l'espion de Napoléon III.
Voilà une vie de plus, alors.
Une vie de plus, mais pas innocente.
Je crois que vous serez d'accord avec moi. En lisant votre livre, j'ai au moins décelé, parmi beaucoup de qualités de Mérimée, une qualité qui m'a semblé dominante, c'est le sens de l'amitié. C'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber ses amis. Il a eu une amitié avec Stendhal, avec, vous l'avez dit, la mère d'Eugénie de Montijo, Manuela. Mais il a aussi des relations amicales avec d'autres et d'autres académiciens, par exemple Jean-Jacques Ampère.
Ah, Jean-Jacques Ampère, c'est une amitié qui remonte au lycée.
Au lycée, voilà. Ancelot de l'Académie française, qu'on a
un peu
oublié. Faut
bien sûr. Et Madame Ancelot, oui. Il y en a d'autres, d'ailleurs. On va retrouver que son éloge va être fait par Louis de Loménie, qui est le gendre de Madame Lenormand. Lenormand étant un ami de toujours de Mérimée. Et quand Lenormand va mourir, il va voler au secours de Madame Lenormand, qui a un tableau à vendre. Madame Lenormand était la nièce de Madame Récamier. Mmh. Elle a une toile représentant Madame Récamier qu'elle voudrait vendre. Et c'est Mérimée qui se met en chasse pour trouver un acquéreur. Le tableau, d'ailleurs, a fini au Louvre. Et il y a cette permanence dans le... Jamais il ne lâche un ami, jamais. Il n'en a peut-être pas beaucoup, parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Parce que c'est un personnage assez cynique, assez tranchant. Mais ses amis, il y a une fidélité permanente.
Alors, dans ses amis académiciens, je ne parle que de cela, je note Delacroix, je ne crois pas qu'il ait eu de problème avec lui, Musset ou Sainte-Beuve, mais il y a aussi Victor Hugo. Quelles étaient ses relations avec Victor Hugo ?
Elles ont été assez vite mauvaises.
Assez vite mauvaises.
Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui ont joué. Premier aspect, c'est le théâtre romantique. Manifestement, Mérimée a voulu détruire le théâtre classique, mais le théâtre romantique ne l'a pas du tout enchanté. Il a vu les limites très très vite de ce théâtre. Il a vu se tourner dans un spectacle qui n'était pas de son goût. Et il y a eu d'autres affaires. Les deux hommes se sont affrontés sur des tas de petits sujets du style « Vous n'avez pas rendu le livre que je vous ai prêté il y a 8 mois et demi ». Et puis il y a eu la politique. Mérimée, dans ses fidélités, est resté auprès de Napoléon III. Et pour Victor Hugo, c'était la catastrophe des catastrophes. Comment pouvait-on accepter Napoléon III ? Donc la rupture s'est faite progressivement et à la fin, la crevasse était absolument impossible à combler.
Pierre Pélissier, un mot pour terminer cette émission sur les 7 vies ou 8 de Prosper Mérimée. C'est justement la fin de sa vie, une fin de vie douloureuse.
Une fin de vie à la fois douloureuse et triste. Alors, la tristesse, nous en avons parlé, commence avec Madame de Lesserre qui prend ses distances. La maladie, assez vite, c'est un homme qui est usé, parce que la vie qu'il a menée, parcourir la France, tous les départements, à dos de cheval, à dos de mulet, la Corse dans des conditions insensées, c'est un homme qui était physiquement usé et qui s'est un peu détaché de la vie, qui s'est un peu renfermé. C'était un vieux célibataire qui vivait dans son appartement de la rue de Lille ou à Cannes. C'est un homme qui souffrait considérablement, qui essayait des traitements pour ses poumons, qui allait s'enfermer dans des cloches d'air comprimé pour essayer de respirer mieux, qui se sentait mourir. Il y a des choses très tristes chez Mérimée. Mérimée adorait les très bons vins. Il avait une cave, à mon avis, très intéressante. Et à 12 ou 15 ans de sa mort, on lui propose un Bourgogne en disant « Il faut laisser reposer 20 ans ». Il fait « Pourquoi voulez-vous que j'achète un vin que je ne pourrai jamais boire ?» C'est un côté un peu triste. Et puis il y a ce désenchantement. Il est tout seul à Cannes. Il a ses deux vieilles anglaises dont tous ses amis disent mais qu'il se sépare d'elles, l'étouffent, elles le font mourir à petit feu. Il vit à Cannes. Il marche à petits pas dans Cannes, qui était un très beau village quand il est installé, qui devient une ville exubérante parce que les Anglais construisent n'importe quoi, de préférence dans style Tudor en briques, alors qu'il y a de très belles pierres dans le Midi. Et puis
finalement, il meurt en 1870, peu après d'ailleurs, malheureusement, la défaite de Sedan. C'est-à-dire qu'il est témoin de la défaite de l'empereur.
Il voit l'effondrement de l'empereur. Il a d'ailleurs quelque chose d'étonnant quand l'empereur part à Sedan, à la guerre. À plusieurs reprises, il se dit que l'empereur devrait se faire tuer. Parce qu'il sait que ça sera la chute du Second Empire, et il sait que derrière, ça sera la République. Alors ça, pour lui, c'est l'abomination complète. Ce libéral est devenu un conservateur qui ne veut pas que les choses évoluent trop vite. Il sent qu'on va vers une sorte de révolution. La Commune va arriver, il n'a pas prévu la Commune, mais il savait que ça se terminerait très mal. Il a essayé de voir l'impératrice le jour où elle est partie en exil. Il ne l'a pas vue, elle a pris le train pour Cannes. Et à Cannes, le docteur Mort, qui était à la fois un ami et son médecin, a récupéré sur le quai de la gare un vieillard au bout de la vie qui va mourir une douzaine de jours plus tard.
Merci Pierre Pélissier de nous avoir fait partager les nombreuses vies de Prosper Mérimée. Je rappelle que votre livre Prosper Mérimée est publié par les éditions Talendier et que Canal Académie, si vous aimez Prosper Mérimée, vous propose une autre émission avec Pierre Pélissier qui a trait tout spécifiquement à la fameuse dictée de Mérimée. Alors sur votre moteur de recherche, vous pouvez taper « dictée Mérimée » et vous aurez cette autre émission. Merci, à bientôt. Thank you.